m'inquiète le plus, c'est le caractère fragile des lois électorales qui ont été improvisées par des individus qui sont intéressés à candidater. Donc vous pouvez imaginer les conflits d'intérêts que cela suppose. Ces lois électorales ont été passées en catimini au mois de septembre et au mois d'octobre. Et dans une atmosphère plus saine, il aurait dû y avoir plus de temps pour en discuter et éventuellement effectuer des amendements. Les lois électorales ne sont pas fragiles par hasard, elles sont fragiles presque par conception. Cela veut dire concrètement que si effectivement le premier tour des présidentielles a lieu le 24 décembre, ce qui existe dans les livres, si vous voulez, d'un point de vue législatif, est tellement incomplet que cela peut créer une atmosphère non seulement polarisée, violente, mais aussi avec aucune garantie légale qu'il y ait un second tour à la présidentielle et encore moins des législatives avec une certaine simultanéité vis-à-vis du second tour de la présidentielle. Le fait de s'obséder, de focaliser comme ça sur le premier tour de la présidentielle, ça peut laisser la Libye complètement au milieu du guet avec une expérience qui finalement aura discrédité l'exercice démocratique en plus de venir exacerber la crise.
Mais là, dans ce cas-là, la communauté internationale porterait une lourde responsabilité, puisque c'est elle qui pousse à ces élections, les Nations Unies, les différentes grandes puissances qui ont fait pression sur Tripoli pour que ce scrutin ait lieu, ce scrutin du 24 décembre.
Oui, en fait, ce que je condamne ici, ce n'est pas tellement le fait de pousser. On peut pousser de manière extrêmement constructive, maligne, judicieuse, avec une diplomatie qui soit réfléchie, impartiale, habile, mais pressuriser les Libyens tout en se contentant d'effets d'annonce, par exemple se fixer sur une date comme ça très symbolique, le 70e anniversaire de l'indépendance libyenne, ça crée une rigidité tout à fait artificielle et qui est dangereuse.
Si on revient un peu sur les principales personnalités qui ont fait acte de candidature, il y a bien sûr le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de Cyrénaïque, qui avait failli prendre Tripoli il y a quelques mois. Que représente Haftar aujourd'hui sur la scène politique derrière son passé militaire?
Déjà, c'est quelqu'un qui avait tenté un coup qui consistait à suspendre la Constitution en février 2014. C'était un coup qui s'était très mal passé. Il avait été ridiculisé à l'époque. Mais les gens se souviennent. Les gens se souviennent de ce moment. Il a évidemment aussi bombardé l'aéroport de Tripoli en décembre 2014. Il a réattaqué Tripoli en 2019. Donc, ce n'est pas une incarnation de Thomas Jefferson, si vous voulez.
Parmi les autres figures, il y a évidemment aussi l'actuel Premier ministre de transition, Abdelhamid Dbeiba. Quelles sont un peu ses chances? Est-ce qu'il est vu par les Libyens comme justement l'homme des Nations Unies, de la communauté internationale, et du coup avec beaucoup de défiance, ou a-t-il des chances?
Non, il ne le voit pas comme le personnage des Nations Unies. Ce que les Libyens savent, c'est que pour la première fois, un Premier ministre jouit d'un partenariat extrêmement étroit avec le gouverneur de la Banque centrale. Et c'est un pays, la Libye, où le simple fait de pouvoir retirer son salaire sous forme d'espèces était longtemps impossible. Du fait de cette alliance absolument stratégique qui existe entre le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, cette année, certaines catégories de professions, comme par exemple les enseignants, ont reçu des augmentations de salaire. Il y a eu aussi des nouveaux programmes de bourse pour les étudiants. Mais dans un pays fatigué, le fait de livrer quelques petites réalités comme ça qui sont tangibles, ça suffit pour convaincre un certain nombre de ménages. Il ne faut pas sous-estimer la popularité qu'il apporte, même si, en théorie, il n'a pas le droit de se porter candidat.